Afrique, les infos, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. En Afrique du Sud, violentes échauffourées ce vendredi dans une église de la ville du Cap où plus de 200 ressortissants étrangers ont été hébergés après les violences xénophobes dans le pays. Ces étrangers, principalement des demandeurs d'asile originaires de pays africains, occupent l'église méthodiste de Green Market Square depuis leur expulsion par la police il y a 2 semaines des bureaux du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Cap, où ils avaient organisé un sit-in pour réclamer leur transfert d'Afrique du Sud vers un pays plus accueillant pour les réfugiés. Les demandeurs d'asile ont très mal pris la requête du pasteur de l'église quand il leur a suggéré aujourd'hui de commencer à évacuer les lieux complètement surpeuplés. Plusieurs membres de la délégation qui accompagnaient le pasteur Alan Story dans sa démarche ont été agressés. Parmi les blessés figure l'archevêque du Cap, Mgr Tabo Mac Goba. Afrique du Sud toujours, la compagnie aérienne South African Airways a annulé tous ses vols aujourd'hui et demain après un appel à la grève du personnel navigant et technique. Les employés dénoncent un plan de suppression d'emplois de cette firme sud-africaine très lourdement endettée. Les détails avec Abdourahman Dia.
Dans un communiqué, South African Airways appelle tous les passagers qui doivent prendre des vols intérieurs et internationaux aujourd'hui et demain à ne pas se présenter dans les aéroports. Le porte-parole de la compagnie, Tali Tali, précise que tous les vols de la South African Airways sont annulés pendant 2 jours, soit une centaine de vols quotidiens. Un peu plus tôt hier, les syndicats NUMSA et SACA ont confirmé le début ce vendredi d'une grève à durée illimitée après l'échec de négociations. Ces deux syndicats, qui représentent plus de 3000 salariés sur les 5200 employés de la compagnie, réclament une sécurité de l'emploi pour au moins 3 ans et une augmentation de 8% des salaires. La compagnie aérienne sud-africaine fait partie, avec le géant de l'électricité Eskom, des entreprises publiques qui traversent de très grosses turbulences financières.
Violence en République démocratique du Congo, un père de famille et ses 5 enfants ont été tués par les rebelles d'origine ougandaise des ADF contre lesquels l'armée congolaise affirme mener des offensives d'envergure dans l'est du pays depuis 15 jours. Selon des responsables locaux, le massacre a eu lieu lors d'une incursion rebelle à Oicha, localité du territoire de Beni, province du Nord Kivu, jeudi soir. L'armée congolaise confirme le bilan de 6 membres d'une même famille tués. Au total, quelques 25 civils ont perdu la ville dans les attaques attribuées aux ADF, les forces démocratiques alliées, depuis l'annonce du lancement des opérations militaires le 30 octobre. Agitation en Guinée maintenant, le gouvernement guinéen a rejeté hier le rapport négatif à son égard, publié mercredi par Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans le pays. Par ailleurs, un autre jeune a été tué par balle au cours d'une nouvelle manifestation de masse, jeudi à Conakry. Le point avec Eric Maniratiza.
À l'issue du Conseil des ministres à Conakry, le gouvernement a estimé que le rapport d'Amnesty présente des faits insuffisamment vérifiés et recoupés et passe volontairement sous silence les efforts et les progrès réalisés pour consolider l'état de droit et améliorer la conduite des forces de sécurité. Amnesty n'évoque pas les difficultés particulières comme la nature violente et chaotique de certaines manifestations ou le manque de confiance entre certaines populations et le personnel d'application de la loi, poursuit le communiqué. L'ONG a publié mercredi un rapport intitulé « Guinée, les voyants au rouge à l'approche de l'élection présidentielle de 2020 » et dénombre 70 manifestants tués ces 5 dernières années et dénonce l'usage excessif de la force. Hier encore, un jeune Guinéen a été tué par balle lors de heurts à Conakry après la dispersion musclée d'une nouvelle manifestation. Alpha Souleymane Diallo, 19 ans, est au moins la 18e victime depuis le début, le 14 octobre, d'une mobilisation contre un éventuel 3e mandat du président Alpha Condé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
La lutte contre les groupes armés dans le Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger, un boom aurifère suscite la convoitise croissante des groupes armés. Les forces de sécurité peinent à contrôler les zones d'orpaillage dans des régions délaissées et parfois même abandonnées par l'État et où s'engouffrent les groupes djihadistes. Les groupes armés, dont les djihadistes, trouvent dans l'exploitation aurifère artisanale une nouvelle source de financement, voire un terrain de recrutement, ce qui risque d'alimenter la violence au Sahel. Il y soit l'adjoint Mathieu Pellerin, auteur du rapport sur ce problème à International Crisis Group, un groupe de recherche pour la et de prévention des conflits.
J'en profite pour deux raisons. La première, c'est qu'on observe depuis quelques années un boom aurifère dans la partie nord du Sahel, dans des zones qui étaient déjà fréquentées par les groupes djihadistes. Donc nécessairement, les groupes djihadistes se sont rapprochés de ces sites aurifères. Je pense particulièrement à la région de Kidal, au nord du Mali. Et dans le même temps, vous avez une progression de ces groupes djihadistes dans des zones anciennement aurifères et qui jusqu'ici n'étaient pas sous la menace de ces groupes. Et là, je pense davantage, par exemple, au Burkina Faso, dans la partie septentrionale, où d'anciens sites aurifères artisanaux sont désormais sous influence de ces groupes djihadistes. Ensuite, comment ils en profitent d'un point de vue financier? Soit, je dirais, ils sécurisent certaines mines, se font payer de cette manière-là, mais ça, c'est beaucoup plus à titre individuel des unités djihadistes. Et d'une manière plus systémique, il y a la collecte de la Zakat, hein, l'impôt islamique, auprès de certains orpailleurs.
Des cas concrets au Mali ou au Burkina?
Oui, tout à fait. Dans l'extrême nord de la région de Kidal, dans les environs de Tinzawaten, vous avez quelques sites aurifères artisanaux qui sont sous influence de ces groupes djihadistes, de même que des cas notamment à l'est du Burkina Faso ont été rapportés, où une mine est restée longtemps et serait encore aujourd'hui sous l'influence de groupes djihadistes. Alors il ne faut pas imaginer à chaque fois que ces groupes, militarisent le site aurifère ou ont des gardes armés à l'entrée de ces sites, mais c'est beaucoup plus une influence diffuse qui fait que les orpailleurs de ces sites miniers se doivent de collaborer avec les djihadistes.
La plupart de ces mines ne sont pas protégées par les gouvernements. En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire alors?
Il y a un certain nombre de choses à faire. Tout d'abord, il faut quand même mentionner que il ne faut pas être alarmiste. Il n'y a qu'une très très infime minorité de ces sites aurifères artisanaux qui sont sous influence des groupes djihadistes. Et l'immense majorité de ces sites, la situation est relativement paisible. C'est une soupape sociale considérable pour les populations du Sahel, puisque 2 millions approximativement d'orpailleurs travaillent directement dans ces sites aurifères artisanaux et sans aucune influence de groupes armés. Hein, donc ça reste un phénomène qui est minoritaire, mais qui est tout de même un sujet de préoccupation. Déjà, il faudrait mieux formaliser la relation que les gouvernements entretiennent avec des groupes armés locaux, je pense singulièrement à des groupes d'autodéfense, que ce soit les Kogléogo au Burkina Faso ou bien les Dozo dans le sud du Mali. C'est des groupes qui assurent une sécurité, je dirais, de proximité dans ce site, mais qui souffrent d'un manque d'encadrement et de régulation un peu de leurs activités. Donc il faudrait que les États soient plus actifs dans cet encadrement. Ça, c'est pour les sites qui ne sont pas, je dirais, directement sous la menace des groupes armés. Pour les sites qui sont plus directement immédiatement touchés par l'influence de ces groupes, là, l'État doit, dans la mesure du possible, reprendre le contrôle de ces sites, assurer une sécurité par le déploiement de forces de défense et de sécurité, afin de limiter le risque de financement de ces groupes-là. Mais il faut qu'effectivement, ce soit des mines qui soient ciblées, parce que bien évidemment, au regard, je dirais, de la mobilisation croissante et peut-être même déjà excessive des forces de défense et de sécurité sur le front antiterroriste, elles ne peuvent pas se disperser et mobiliser davantage de moyens sur l'ensemble des sites miniers.
Mathieu Pellerin, auteur du rapport d'International Crisis Group sur les sites aurifères du Sahel. Et pour terminer, actualité américaine. Au Congrès des États-Unis, la présidente de la Chambre des représentants à majorité démocrate, Nancy Pelosi, a affirmé jeudi que le chef de l'exécutif américain, Donald Trump, avait déjà reconnu des actes de corruption dans l'affaire ukrainienne au cœur de l'enquête pour une éventuelle procédure de destitution contre le président républicain. Les précisions de Jean-Roger Bion.
La déclaration de Nancy Pelosi offre un aperçu des articles de la procédure d'impeachment que les démocrates pourraient mettre en avant au lendemain du début des auditions publiques au Congrès américain dans le cadre de cette enquête. Selon la chef des démocrates majoritaire à la Chambre des représentants, les faits reprochés en 1974 à l'ex-président républicain Richard Nixon, visé par une enquête pour destitution, apparaissent presque petits à côté des agissements de Donald Trump. Les démocrates à la Chambre basse cherchent à déterminer si le président Trump a demandé une contrepartie à Kiev pour les 391 millions de dollars d'aide destinée à faire face aux séparatistes pro-russes de l'est de l'Ukraine, une aide provisoirement suspendue par le président républicain malgré son approbation au Congrès. Le président Trump réfute ces accusations. le chargé d'affaires à Kiev, l'ancien ambassadeur en Ukraine William Taylor, et le secrétaire d'État adjoint chargé des affaires européennes et eurasiennes George Kent ont été entendus mercredi. Une autre figure centrale de cette affaire, Marie Yovanovitch, qui a été limogée en mai dernier de son poste d'ambassadrice en Ukraine, sera entendue ce vendredi.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Alors, allez-y.